Par actualité. Mardi 27 septembre, Clotilde Seille au micro de Canal M, et voici les titres du jour au Paractualité. Maître Ménard veut que les médecins paient la facture. En l'entrevue du jour avec le docteur Patrick Simard, ophtalmologiste et chargé de clinique en lentille cornéenne à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal, il sera question de myopie, Alzheimer. Gardez l'espoir, comme une femme qui témoigne pour nous aujourd'hui. L'organisme du jour, Jérôme Bobin, directeur général de Handicap International Canada. À l'international, pénurie de fauteuils roulants à Pearson. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale du tourisme. Le thème de cette année, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur du tourisme pour tous. Alors, si comme annoncé, le gouvernement fédéral impose une pénalité financière au Québec cette année pour avoir toléré la pratique des frais accessoires, ce sont les médecins ayant imposé ces coûts qui devraient éponger la facture, a déclaré ce matin. En fait, c'était hier matin, l'avocat spécialisé en défense des droits des patients, maître Jean-Pierre Ménard. Les contrevenants doivent payer. C'est une question de justice sociale, a-t-il dit. Depuis des années, Québec tolère la pratique des frais accessoires. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, a annoncé qu'il abolirait ces frais, estimés à 83 millions par année dès janvier. Au printemps dernier, maître Ménard et la FADOC avaient déposé une requête en mandamus afin de forcer le gouvernement fédéral à appliquer les dispositions de la loi canadienne sur la santé. Cette loi stipule que les provinces n'ont pas le droit d'autoriser la pratique des frais accessoires, sous peine de voir leurs transferts fédéraux diminuer. Dans une lettre envoyée au ministre Barrette début de septembre, la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, avertit qu'une déduction équivalente au montant des frais accessoires pourrait être imposée sur les transferts fédéraux en santé versés au Québec. Et pour maître Ménard, cette lettre de la ministre Philpott découle de la démarche juridique entamée par la FADOC. Beaucoup de gens ont voulu s'approprier la victoire, mais nous y voyons une conséquence directe de notre dossier. Avec le fédéral, affirme maître Ménard. Et si être atteint de TDAH avait des avantages? Et lesquels avantages? Ce trouble neurologique désignant un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité s'avère souvent handicapant, mais il pourrait devenir aussi un atout. Et c'est ce que mentionne le site de l'hôpital Douglas. Les personnes qui en sont atteintes seraient souvent très créatives, étant donné leur facilité à passer d'une idée à l'autre et à adresser les problèmes différemment. Cette façon de penser en dehors de la boîte pourrait leur procurer un avantage, notamment dans différents milieux de travail qui requièrent la capacité à trouver des solutions créatives et uniques. Et puis, cette lettre, ou du moins quelques bribes d'une lettre, c'est un témoignage adressé par une maman à une psychologue. « Je m'adresse à vous, madame la psychologue, qui avez fait perdre un an à mon fils, un cinquième de sa vie, 20% de sa vie. Je n'oublierai jamais votre nom que je tairai tout de même ici. Vous étiez psychologue dans un CLSC, mon conjoint, mon fils et moi, nous sommes allés vous rencontrer un matin de juillet 2014. Nous soupçonnions que notre aîné puisse être autiste. » Nous en étions certains. Vous avez conclu que notre fils manquait d'encadrement, que c'était notre faute et que nous devions acquérir davantage de compétences parentales. Vous, l'orthophoniste, la travailleuse sociale, le coordonnateur, vous avez jugé que c'était ma faute, que c'était la faute de son papa, que c'était notre faute. Vous avez fermé les yeux sur la vérité pour vous en inventer une qui vous confortait dans votre rôle d'aidant. Vous nous avez inscrits à des cours de compétences parentales, au programme Équipe. Et un jour de mars, j'ai hurlé dans le téléphone que j'en avais marre pour rester poli. Au bout, une intervenante d'Autisme Québec qui me suggérait d'aller au privé. Madame la psychologue, qui avait fermé les yeux pour ne pas remarquer que mon fils était autiste, je tiens à vous dire qu'il a maintenant reçu son diagnostic officiel et que j'avais raison, que nous avions raison. Il est bel et bien autiste. Et la pédopsychiatre qui l'a évalué n'a eu que de bons mots pour son papa et sa maman. Je tiens à remercier sincèrement l'intervenante d'Autisme Québec qui m'a dit « Je ne devrais pas vous dire ça, mais allez au privé. » Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que si je n'étais pas allée au privé, madame la psychologue, c'est plus qu'un an que j'aurais perdu. C'est peut-être 2, 3 ou 4 ans que j'aurais perdu pour mon fils. Alors je suis heureuse d'avoir les yeux ouverts. Je les pose sur mon garçon autiste et je suis fière des progrès qu'il réalise. Cet enfant me fait grandir, me pousse dans mes derniers retranchements, mais par-dessus tout, il m'enseigne l'indulgence. Alors, si tout va bien, je devrais maintenant m'entretenir avec le docteur Patrick Simard. Docteur Patrick Simard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologiste et vous êtes chargé... Oui?
Optométriste,
pardonnez-moi. Et vous êtes chargé de clinique en lentilles cornéennes, hein, c'est bien ça, à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal.
Exactement.
Et aujourd'hui, on va parler de myopie. Parce que, dites donc, j'ai un article sous les yeux, mais c'est quand même assez infernal de voir à quel point notre belle jeunesse est de plus en plus myope. C'est plus du double qu'il y a 50 ans, hein, en Amérique du Nord et en Europe. Ouf, à quoi est dû ce phénomène?
Il y a principalement les facteurs génétiques.
Ah oui, oui.
Ça, d'une part... ce qui nous donne des taux de myopie beaucoup plus élevés. Puis d'autre part, il y a les facteurs environnementaux.
Les facteurs environnementaux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça inclut?
Ça inclut le fait que notre vision de près est beaucoup plus sollicitée que dans le passé. Donc, on a une demande visuelle rapprochée, que ce soit avec les écrans, les livres et tout, qui est beaucoup plus près pour de longues heures. Ça, ça fait partie des phénomènes environnementaux qui vont augmenter et contribuer à l'épidémie là, qu'on voit apparaître. Là,
oui, parce que là, on parle vraiment, mais vraiment d'une épidémie. Et quel est l'impact d'une myopie plus précoce chez les jeunes?
Il y a deux impacts. Il y a l'impact fonctionnel. C'est un impact qui est moins important, je dirais, dans les pays développés parce qu'on peut toujours bien corriger l'erreur de réfraction pour la population qui a accès à des soins et des corrections visuelles. Puis d'autre part, le fait d'avoir des enfants qui souffrent de myopie de plus en plus jeunes, ça nous donne des patients qui vont avoir un niveau de myopie beaucoup plus élevé à l'âge adulte, ce qui nous donne des risques de développer de la cataracte, la dégénérescence maculaire ou le glaucome, des risques beaucoup plus élevés à l'âge adulte. Donc, on a vraiment ici un rôle là, de prévention à faire pour éviter d'avoir une cohorte d'handicapés visuels plus tard dans leur vie. Là.
Oui, je comprends. Mais on devient un myope en combien de temps? Je sais que c'est une question qui peut sembler un petit peu ridicule, mais est-ce que ça peut arriver brutalement ou ça s'étire dans le temps? Comment?
Il y a plusieurs niveaux de progression. Ceux qui commencent à être myopes, la progression moyenne va être une progression qu'on dit de 0,50 dioptrie par année.
Ça ne me parle pas beaucoup, mais voulez-vous m'éclairer un petit peu?
Un enfant qui va avoir une progression plus élevé que la moyenne, va voir une diminution fonctionnelle de sa vision environ tous les 6 mois.
Tous les 6 mois.
Oui.
Et quand vous parlez, par exemple, de l'environnement, si on constate que la myopie n'est pas génétique, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour la retarder, cette myopie-là? Est-ce que vraiment, si on empêche, par exemple, l'enfant de passer trop d'heures devant un écran, est-ce qu'on peut améliorer, peut-être pas améliorer, mais au moins empêcher la progression de la...
Oui, tout à fait. Ça fait partie des facteurs de risque qu'on peut influencer. Donc, on sait déjà qu'il y a un bienfait à être exposé à la lumière extérieure. Dans un plan d'action de vouloir ralentir la myopie, on suggère de jouer à l'extérieur au moins 20 heures par semaine.
OK. En
Donc,
effet.
ça c'est un premier facteur qu'on peut influencer.
OK.
Deuxième facteur qui est en vision rapprochée, de ne pas placer les documents ou l'écran trop près. Donc, on ne doit jamais regarder à plus près que 40 cm. Donc, on suggère une distance de 40 cm.
40 centimètres.
Exactement. Puis, l'autre point, c'est si on est en vision rapprochée sur une longue période, il faut changer la distance focale de l'œil régulièrement. Donc, on va mentionner de regarder en vision de loin pendant 15 secondes à toutes les 15 minutes.
Dites-moi, vous, en tant qu'optométriste spécialiste, êtes-vous optimiste? Je veux dire, est-ce que vous avez l'impression que vraiment les gens vont est-ce qu'ils vont réguler leurs heures? Est-ce que les parents vont vraiment faire quelque chose pour les jeunes? Est-ce que vous avez l'impression que les gens finalement sont conscients que la myopie, ça peut conduire à la cécité?
Oui, de plus en plus, c'est le message qu'on essaie d'apporter. Parallèlement à ça, c'est que maintenant, on a des outils pour agir. On identifie des enfants qui commencent déjà à avoir une forte myopie vers l'âge de 10 ans, on peut faire des interventions autres qu'uniquement gérer les facteurs environnementaux comme ajuster des lentilles cornéennes qui vont nous permettre de freiner l'évolution pour amener un enfant à l'âge adulte avec un niveau de myopie faible à moyen et ainsi diminuer ses risques de maladie plus tard dans sa vie.
Mais enfin, en tout cas, je ne pense pas que les futurs optométristes vont manquer de travail. Monsieur Simard, alors voilà, je m'entretenais avec le docteur Patrick Simard, optométriste et chargé de clinique en lentilles cornéennes à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Monsieur Simard, merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Merci, bonne fin de journée.
À vous aussi, au revoir. Garder espoir malgré la maladie d'Alzheimer. On parle ici d'une femme parmi tant d'autres atteintes d'Alzheimer. Elle habite à Notre-Dame-des-Prairies et elle a décidé, elle, de garder espoir en affrontant cette maladie un jour à la fois. Faut y aller au jour le jour, elle dit. Faut essayer de voir tous les beaux côtés que... Pardon, excusez-moi, ça c'est son mari qui nous dit qu'il faut y aller au jour le jour, qu'il faut essayer de voir tous les beaux côtés que tu as vécu avec la personne. Il s'appelle André Soulière, son mari. Il ajoute que certaines journées sont meilleures que d'autres. La femme en question s'appelle Madame Lise Morin. Elle a 73 ans. Sa femme a commencé à avoir certains problèmes de motricité et à perdre de l'intérêt envers certaines choses comme la nourriture. La maladie a aussi malheureusement commencé à voler certains souvenirs précieux de Madame Morin. Et Madame Morin, elle vit dans l'angoisse d'oublier ce qu'il y a justement de plus précieux pour elle, c'est-à-dire ses quatre enfants. Elle dit souvent « je ne veux pas les perdre de ma mémoire, c'est une chose que je veux garder tout le temps ». Pour aider sa mémoire, Lise Morin a mis un tableau au pied de son lit où elle a accroché des photos de personnes et de moments qu'elle ne veut pas oublier, comme ses enfants ou le jour de son mariage il y a 55 ans. Mais ce qui l'aide vraiment, ce sont, figurez-vous, ces rendez-vous du mercredi avec une accompagnatrice avec laquelle elle a fait des jeux, des lectures et du yoga. Et selon elle, sa mémoire et ses fonctions cognitives se sont beaucoup, beaucoup améliorées depuis. Elle dit qu'elle n'était plus capable, par exemple, de faire de casse-tête et maintenant elle l'est. Il a été en effet démontré scientifiquement que les exercices intellectuels et physiques ralentissent la progression de la maladie. Madame Morin, qui participe aussi au programme Music and Memory, qui utilise de la musique personnalisée pour raviver le cerveau. Selon une association américaine de l'Alzheimer, la musique est entreposée dans de nombreuses régions du cerveau. Ainsi, selon l'association, utiliser la musique associée à des souvenirs personnels aide la personne à se connecter avec ses proches et accroît sa qualité de vie globale. Alors oui, elle a bon espoir. D'ailleurs, elle le dit. Elle dit « j'ai espoir parce que j'aimerais bien vivre jusqu'à 114 ans ». Et là, elle part d'un grand éclat de rire, Madame Lise Morin, je vous le disais, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Peut-être une lueur d'espoir pour vous, peut-être qui nous écoutez, qui êtes peut-être des proches aidants d'une personne atteinte, ou vous-même. Alors, allez, on ne lâche pas, une journée à la fois. « Jérôme Bobin, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Vous voilà revenu dans les locaux de Canal M. Vous avez été chroniqueur assez longtemps ici.
Oui.
Et puis là, vous êtes à la veille de partir en voyage.
En voyage en France, mais je reviens surtout d'un autre voyage, enfin,
c'est
il y a quelques temps.
C'est ça, exactement, dont nous allons parler tout de suite. Je rappelle, avant de commencer, que Jérôme Bobin est directeur général de Handicap International Canada. Et alors, vous étiez où?
Alors, j'étais il y a quelques semaines à Cuba, donc je propose aujourd'hui de vous y emmener. Hein. On prend notre billet d'avion, on prend notre crème solaire, on prend notre guide du parfait danseur de salsa.
Oui.
Puis vous parliez à l'instant de musique. La musique à Cuba, elle est omniprésente et je suis absolument persuadé qu'en effet, elle facilite les interactions et les connexions avec les individus, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on ne le soit pas. Donc Cuba, pourquoi je vous parle de Cuba? On le sait, Cuba a le vent en poupe ces derniers mois, on en parle beaucoup. On parle beaucoup des relations qui sont renouées avec les États-Unis. Il y a quelques jours, Philippe Couillard, le Premier ministre, était dans l'île directement pour négocier de nouveaux contrats. Mm-hmm. Et puis on va bientôt voir apparaître toutes les publicités habituelles de ces vacances ensoleillées pour la période hivernale. Cuba, c'est une longue histoire avec le Canada. Hein. Mm-hmm. C'est plus de 70 ans de relations diplomatiques entre les deux pays qui n'ont jamais été interrompues. C'est 1 milliard de dollars d'échanges, de commerce entre les deux pays. Et puis, c'est 40% des touristes qui visitent Cuba chaque année qui viennent du Canada.
Mais Jérôme Bobin, les personnes handicapées dans tout ça?
Les personnes handicapées à Cuba, comme un peu dans beaucoup de pays, malheureusement, les statistiques sont toujours assez difficiles à regrouper. On parle du fameux 10% de la population qui serait touchée par un handicap. Ça augmente sur le handicap mental aussi. On parle de 17%, voire 35% de personnes touchées par un handicap intellectuel, pour tout un tas de raisons, des raisons de consanguinité dans des communautés un peu reculées ou une mauvaise grossesse ou un mauvais accompagnement. Oui. Ce qui est certain pour nous, c'est qu'au-delà des chiffres, nous, ce qui nous intéresse à Cuba, c'est la place et le rôle que les personnes en situation de handicap vont pouvoir y mener. Et c'est en ça que j'ai pu découvrir, moi, deux projets que je trouvais fort intéressants.
Okay.
Un premier projet qui se situe dans la province de Bayamo. C'est une province au centre-est de Cuba, un peu forcément excentrée de la Havane. On parle de 10 heures de route pour accéder sur des routes qui, je dois dire, sont assez vides de personnes. Donc, donc le trajet se fait facilement.
Et assez chaotique, certainement aussi, quand même, non?
Aussi, oui. Et dans cette province-là, on favorise un projet d'insertion socio-économique. Mm-hmm. Donc, en fait, on s'appuie sur les écoles qui existent déjà. Mm-hmm. Et on intègre dans ces écoles des adultes en situation de handicap à qui on va favoriser la formation en coiffure, en cuisine, en construction, en menuiserie, en réparation de vélos. Tout un tas de petits boulots artisanaux qui, finalement, dans la société, dans l'économie cubaine, sont super importants.
Vont rendre bien des services.
Oui, vont rendre bien des services.
Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Parce que ça n'existait pas avant, ça?
Ça n'existait pas aussi d'une manière aussi systématique, finalement.
Ah, okay,
et puis, en effet, former des personnes en situation de handicap à avoir un boulot, ce n'est pas nouveau.
Mm-hmm.
Ce qui est assez nouveau, c'est finalement le contexte dans lequel ça se fait. Parce qu'en fait, déjà à Cuba, vous savez, on travaille avec les associations de personnes handicapées.
Oui.
Il y a trois grosses associations, personnes handicapées physiques, handicapées aveugles, visuelles,
voilà.
Handicapées auditives.
D'accord.
C'est trois associations constituées. Mmh. Et ces gens-là nous répètent toujours, vous savez, à Cuba, pendant longtemps, on a vu la personne handicapée comme ce qu'elle ne pouvait pas faire seulement, ou plus faire. Mmh. Or, on milite depuis des années pour voir ce qu'elle peut faire. Et c'est exactement comme ça que notre projet d'insertion socio-économique s'intègre. On s'entend que pour réparer un vélo, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir vos deux jambes.
Non, je veux dire,
vous avez vos bras, vous avez vos savoir-faire et vous pouvez travailler sur la réparation de vélo. Donc ça, c'est un contexte très particulier. Et puis, ce qui se développe aussi à Cuba, c'est un changement économique. Alors, ça va prendre un peu son temps, mais c'est en fait la possibilité pour tous les Cubains, y compris handicapés, de créer leur travail autonome,
donc de devenir
travailleurs indépendants. Et dans ces cas-là, ça ouvre un champ des possibles absolument faramineux pour tout un tas de personnes en situation de handicap qui, avant, ne pouvaient pas rejoindre une entreprise assez traditionnelle, qui peuvent créer leur business, par exemple leur petit restaurant ou leur petit salon de coiffure.
Mais là, je vous entends parler, on a l'impression que tout est beau, tout est rose à Cuba. Il doit y avoir encore pas mal d'obstacles à surmonter, non?
Oui, le premier, c'est justement ce fameux statut de travailleur indépendant. C'est quelque chose de très nouveau dans l'économie cubaine. Donc, ça va prendre du temps, ça va un peu à l'encontre des habitudes économiques de Cuba. Donc, ça prend du temps et ce n'est pas aussi simple que ça à obtenir. Et puis, une autre vraie réalité, et je pense que beaucoup de ceux qui ont pu aller à Cuba en sont rendus compte. Alors, bien sûr, il faut sortir des tout inclus, hein, faut aller un peu plus loin que la côte. On manque de tout à Cuba. On manque de matériel. Et quand on apprend à réparer un vélo, ça prend des outils de bricolage. Quand on apprend à cuisiner, ça prend des ustensiles. Et s'il n'y a pas ces ustensiles, ça limite quand même les capacités d'apprendre un certain nombre de métiers.
Vous avez parlé de deux projets. Le deuxième projet, ce serait quoi?
Le deuxième projet, c'est un projet qui est totalement différent, qui vise en fait à intégrer dans la prévention au risque de séisme les personnes en situation de handicap, notamment visuels et auditifs. Pourquoi ? En fait, dans la province à l'extrême est de Cuba, on est sur les mêmes types de failles sismiques que celles d'Haïti. Donc, vous pouvez très bien imaginer là où je veux en venir. On sait ce qui s'est passé en Haïti en 2010. On s'attend tous, la question à Cuba n'est pas de savoir s'il va y avoir un séisme. On sait tous qu'il va y avoir un séisme. Le tout maintenant, c'est de préparer au mieux la population. Le rythme, c'est 80 ans, le dernier a eu lieu en 1932. Vous faites le calcul, on devrait déjà l'avoir eu, le séisme. Donc, comment on intègre les personnes en situation de handicap? Et alors, comment on le fait? Très concrètement, eh bien, on va former l'équipe de la Croix-Rouge cubaine. C'est la Croix-Rouge cubaine qui va rencontrer tous les citoyens et on leur a appris à cette équipe-là, à intégrer les personnes sourdes et malvoyantes dans leurs actes de formation.
Okay.
Vous pouvez imaginer, un séisme arrive, on donne des consignes sonores d'évacuation. Si la personne sourde, personne dans sa famille ou même dans son voisinage n'est au courant qu'il se passe quelque chose et qu'il faut aller s'occuper de cette personne, ça ne marchera pas comme ça.
Mais écoutez, Jérôme, tout cela est fort intéressant. J'imagine que vous allez retourner là-bas parce que vous voyagez beaucoup. Après Cuba, là, c'est la France.
Oui, France, la Colombie encore beaucoup plus l'année dernière, la Bolivie sûrement l'année prochaine. Cuba, oui, j'y retournerai aussi parce que je pense qu'on a quand même quelque chose à apporter à Cuba et à assurer un développement plus harmonieux de l'île pour les habitants en premier, mais aussi pour nous tous qui avons la chance de temps en temps y aller et profiter de cette île merveilleuse.
Exactement. Et puis, il y aura le pays Canalem dans lequel on vous retrouvera aussi prochainement avec beaucoup de plaisir.
Partagé.
C'était Jérôme Bobin. Merci beaucoup, Jérôme. Et puis, merci pour toutes ces précisions sur Cuba. C'est important qu'on le sache aussi, qu'on agit, que le Canada agit à l'extérieur de ses frontières. Merci.
Merci.
Au national maintenant, pénurie de fauteuils roulants à l'aéroport Pearson, un désordre prévisible. L'autorité aéroportuaire du Grand Toronto a tenté de changer le système en place pour gérer les requêtes de voyageurs ayant besoin d'un fauteuil roulant, mais a baissé les bras en 2015 face à l'opposition d'employés d'Air Canada, et c'est ce qu'a appris CBC. Un arbitre a tranché en faveur des employés du transporteur qui craignaient de perdre leur emploi si le service de fauteuils roulants était centralisé, plutôt que d'être laissé à la discrétion des différentes compagnies aériennes. Le résultat allait être un désordre complet, prévenait à l'époque un vice-président de l'autorité aéroportuaire, Scott Collier. À l'heure actuelle, les passagers ayant besoin d'un fauteuil roulant peuvent attendre parfois des heures, selon ce qu'a confié un employé de Pearson à CBC. Par ailleurs, l'aéroport et les transporteurs ont fait face à au moins 8 poursuites depuis 2011 à la suite de blessures et même d'une mort en lien avec des ratés allégués du service. Pour sa part, le porte-parole d'Air Canada, Peter Fitzpatrick, répond que l'arbitre a ordonné à Air Canada de faire tout son possible pour offrir elle-même le service de fauteuil. Et puis, à l'international, le tourisme accessible, c'est le thème de la Journée mondiale du tourisme 2016. Toute personne a droit d'accéder aux loisirs et au tourisme dans des conditions d'égalité partout dans le monde. 1 milliard de personnes handicapées, 1 milliard, ainsi que les jeunes enfants, les personnes âgées et toute autre personne ayant des difficultés à se déplacer doivent encore affronter des obstacles pour pouvoir accéder aux éléments fondamentaux du voyage comme des informations claires et fiables, des transports et des services publics efficaces et un environnement physique dans lequel il est facile de se déplacer. Dans de nombreux lieux touristiques, rien n'est fait pour accueillir les malvoyants, les malentendants, les personnes à mobilité réduite et celles souffrant de troubles cognitifs en dépit des technologies modernes, a déclaré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son message officiel. Alors, le thème le thème du jour, parce que c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe, et ça se passe en Thaïlande, à Bangkok. Donc, le thème de cette année, c'est promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Et c'est un véritable défi, autant pour la Thaïlande que pour le monde entier, d'admettre la nécessité de l'accessibilité dans le tourisme et de faire en sorte de pouvoir recevoir n'importe quel voyageur où qu'il souhaite se rendre. Il nous faut comprendre les principes de la conception universelle. Les voyages et le tourisme sont un secteur en pleine expansion et le nombre de voyageurs augmente d'année en année. Aussi devons-nous offrir le maximum de sûreté et de fluidité pour voyager à travers le monde, a expliqué le ministre du Tourisme et des Sports du Royaume de Thaïlande. Alors, au programme des célébrations officielles, il y aura une session tourisme et médias le 26 septembre. Donc ça se passait hier à l'université de Bangkok. Et il y a une conférence aujourd'hui. En cette journée du 27, une conférence qui portera sur les stratégies novatrices de développement d'équipements, de produits et de services de tourisme accessible qui apportent de la valeur ajoutée aux destinations et les rendent plus concurrentielles sur le marché mondial du tourisme. Des exemples de meilleures pratiques illustreront tout l'intérêt d'investir dans l'accessibilité. D'ailleurs, nous parlions tantôt de Cuba avec l'ami Jérôme Bobin. Je me souviens très très bien que les rares fois où je suis allée à Cuba, j'ai toujours vu partout, par exemple, des rampes pour les personnes handicapées. Le moindre bar était équipé d'une rampe. Et je me suis dit, bon, bah, quand même, hein, à Cuba, c'est parfois mieux équipé qu'ici chez nous. En rafale maintenant, est-ce que vous entendez bien? Eh bien, dans le cadre du programme Municipalité Amis des Aînés, la bibliothèque collégiale et municipale de Thetford Mines accueille une conférence sur la santé auditive demain, le mercredi 28 septembre à 10h30 au local 1089. C'est offert par l'Association des devenus sourds et des malentendants du Québec. La présentation est donnée par M. Michel Nadeau, malentendant depuis l'âge de 35 ans, et agent de milieu de l'ADSMQ. Ce dernier traite dans son exposé des types de surdité, du taux de prévalence, des symptômes, des personnes à consulter, des moyens compensatoires, des stratégies de communication, des acouphènes, du bruit et des services offerts par le centre de réadaptation. Toute la population est invitée à venir assister à cette conférence. Donc demain, je vous le rappelle, mercredi 28 septembre à 10h30 au local 1089 de la bibliothèque collégiale et municipale de Thetford Mines. Et n'oubliez pas que c'est aujourd'hui que se produira à 20h au Festival de théâtre amateur Art Neuf au 3819 rue Calixa-Lavallée au cœur du Parc La Fontaine à Montréal, la troupe du théâtre aphasique qui nous présente Le Dernier Mot. En ce qui me concerne, c'était les derniers mots. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'avoir été là et à mes invités. C'était Clotilde Saïd pour les Paralactualités. À demain!